Ce matin, et Daniel Zaguri, ancien psychiatre des hôpitaux, spécialiste de psychopathologie légale. Il publie l'énigme publique numéro 1, Xavier Dupont de Ligonnès au Seuil.
À défaut de faire entrer l'accusé, on fait entrer l'expert, Daniel Zaguri. Bonjour Daniel Zaguri.
Bonjour Louis Dauphine.
Combien d'années de carrière avez-vous ?
Oh là là ! Vous m'attrapez directement là. Écoutez, j'ai été inscrit sur la liste des experts en 1987.
Waouh ! Et pourtant, Xavier Dupont de Ligonnès est la personne que vous connaissez le mieux, même si vous ne l'avez pas expertisé.
Oui, on pourrait me faire le reproche de ne pas avoir examiné Xavier Dupont de Ligonnès et de faire un livre sur lui. Seulement, je sais beaucoup de choses sur lui. Je sais énormément de choses sur lui. Il a passé son temps à parler de lui sur la toile. D'autres l'ont fait aussi, qui l'ont connu. Et j'ai rencontré un certain nombre de personnes, des proches ou des amis. Donc, et puis, il est beaucoup allé sur les sites catholiques, dialoguer sans dialoguer, on en reparlera peut-être. Et donc, j'ai infiniment plus d'informations que si j'avais expertisé un homme qui, ma foi, ne m'aurait pas dit grand-chose sur lui, aurait tenu que des propos conformistes.
Vous êtes rompu à l'examen des tueurs en série. On sait que cette énigme publique numéro 1, donc, c'est 14 ans après les faits, puisque nous sommes en 2011, lorsque les faits se sont produits. Il est soupçonné d'avoir tué sa femme et son enfant. Je précise soupçonné, évidemment, parce qu'au regard de la justice, aujourd'hui, Xavier Dupont de Ligonnès est toujours innocent. Il est introuvable. Vous savez simplement, avant d'entrer dans l'enquête psychologique, c'est-à-dire de savoir qui il était précisément, du côté des faits de l'enquête judiciaire, aujourd'hui, est-ce qu'on avance ? Est-ce que vous avez des infos là-dessus, vous ?
Ah, mais moi, alors moi, j'ai très clairement, je me suis démarqué par rapport à l'enquête. Je n'ai aucune prétention à ce niveau-là. Je me suis simplement interrogé sur qui est cet homme ? Et qu'y a-t-il dans sa tête ? Comment, pourquoi a-t-il évolué jusqu'à ce drame absolument épouvantable ? Et je me suis aperçu que, très vite, la plupart des gens que j'interrogeais se moquaient éperdument de savoir qui il était. La seule question pour eux, c'est « est-il vivant ?» Où est-il mort ? Et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre l'énigme publique numéro 1 plutôt que l'ennemi public numéro 1 parce que je me suis rendu compte qu'il occupe une place très particulière et qu'il n'était pas haï comme le sont, ou en tout cas méprisé. C'est des sentiments beaucoup plus mélangés contrairement à d'autres criminels.
Le fait que ce soit produit dans un milieu BCBG entre Nantes et Versailles, même si c'est un crime familial et que vous dites que les crimes familiaux peuvent se produire n'importe où, il y a ce qui nous intéresse aujourd'hui, Daniel Zaguri, c'est le fait de savoir s'il y avait une sorte de prédisposition par son éducation à commettre un acte pareil. Est-ce qu'en particulier l'élément religieux est un élément fil rouge qui permet de comprendre des choses ?
Alors,
donc c'est un terrain un petit peu sensible.
C'est un terrain sensible. Ce que je voudrais dire, d'abord, c'est que il faut éviter de plaquer une trame exclusive. On peut avoir une théorie religieuse, une théorie psychiatrique, une théorie narcissique, une théorie aristocratique, et bien d'autres encore dans cette histoire complexe, qui est une histoire. Pour ce qui concerne la religion, on est quand même dans une situation extrêmement particulière, puisque Xavier naît dans une famille dont la mère est prédicatrice. La mère est en communication avec le divin, avec Dieu et avec le Christ, et la mère élève ses enfants dans une ambiance très particulière, qui est décrite par la sœur aînée de Xavier, d'attente de l'Apocalypse, de colère divine, de pluie de sang, enfin c'est quand même quelque chose de très particulier. Un enfant qui se lève très tôt le matin, et qui va à la messe en latin avec sa grand-mère, bon, mais ce qui est tout à fait singulier, c'est que la mère prédit donc l'Apocalypse et elle donne à son fils un destin grandiose. Elle lui prédit qu'il sera un des survivants de l'Apocalypse, occupant une place éminente dans le monde des survivants. Et alors, ce qui est étonnant, c'est pas que la mère le lui ait dit, ce qui est étonnant, c'est qu'il l'ait cru jusqu'à l'âge de 35 ans. Et l'un des fils conducteurs de mon travail, ça a été de montrer que quand on est prédestiné, on ne peut pas se construire un destin.
Xavier a adhéré sans réserve à l'ensemble des visions maternelles, sans doute, sans hésitation, sans conflit. Il l'a dit et répété dans ses messages. On a attesté ça, vous savez qu'il adhérait, enfin jusqu'à en tout cas une date assez avancée dans sa vie, cette vision que sa mère lui avait inculquée, il y avait adhéré et tout le monde le savait.
Ah, il avait totalement adhéré, au point que son ami Bruno de Stamenrath lui pose la question et est complètement sidéré. Il a dit oui, oui, j'ai cru. Et, mais il ne peut pas en vouloir à sa mère parce qu'il dit « maman était sincère ». Donc, alors, à partir de ce moment-là, il est dans une sorte, il devient, je dirais, une sorte de chrétien déchiré, c'est-à-dire qu'il n'a plus la foi. En même temps, il dit « je n'ai jamais eu la foi, puisque je n'ai jamais douté, puisque j'ai gobé la doctrine de ma mère ». Et il est dans une situation, il se prétend agnostique, incroyant, il attaque sa femme, qui a une foi, je dirais, une foi partagée, hein, une foi commune, qui est une catholique pratiquante, et il attaque sur les réseaux sociaux toutes les personnes qui dialoguent avec lui. Au fond, il n'est plus dans la religion, mais il ne parvient pas à s'en, si je puis dire, à prendre de la distance. Et encore une fois, il est déchiré. Et alors, il va. C'est un petit peu agaçant, le Dupont de Ligonnès. Il va sur les sites et il a une espèce de posture de grand théologien qui donneur de leçons un petit peu à tout le monde. Donc il est à la fois un croyant et en même temps, il passe son temps à construire des théories religieuses.
Daniel Zahuri, donc vous écrivez, c'est en 95, à l'âge de 35 ans, que se produira le cataclysme. Ce cataclysme donc va l'emmener entre 95 et 2011. Donc on considère que du point de vue de la foi, enfin lui, ce diagnostic, il est agnostique. Mais en même temps, il est extrêmement actif du point de vue sur les réseaux, enfin sur les réseaux, sur les forums en tout cas, où il participe. Comment qualifiez-vous cette forme de double identité ? D'un côté, foncièrement parlant, je n'adhère pas, mais j'ai une posture militante.
Je crois qu'il a, il a une posture militante essentiellement pour attaquer la foi des autres. C'est assez pénible d'ailleurs parce qu'on lui tend la main. Il appelle au secours, on lui tend la main et en même temps, on s'aperçoit assez vite qu'il ne dialogue pas et il cherche à imposer son point de vue. Je crois que son identité, les fondements, les assises de ce qu'il est, les racines, il les a prises dans ce qu'il va appeler le catéchisme à l'ancienne, c'est-à-dire la doctrine maternelle. Et quand il a perdu ça, il le dit lui-même de façon assez pathétique, j'ai tout perdu. Et donc il est dans une sorte d'errance. Et ce que je pense, parce que c'est ce qui se dégage de ses propos et de ses conduites, ce que je pense, c'est qu'il a retrouvé la doctrine maternelle sur le tard et que c'est elle qui est venu donner sens à son désespoir et qui est venu donner sens au massacre perçu comme un sacrifice. Là aussi, l'idée de sacrifice surgit à un moment donné. Et alors, dans les discussions, on lui dit, mais enfin, le sacrifice, on régresse au pré-monothéisme. Et au fond, il va désymboliser le sacrifice. Il passe son temps à expliquer que le sacrifice est au cœur de la religion catholique, dans ses rites, dans la messe, dans le vin de la messe, etc., etc. Et donc, il désymbolise le sacrifice, et ce faisant, il donne un sens à son acte. Parce que ce qu'il faut mesurer, et ça c'est peut-être très difficile, mais en tout cas il faut le faire, ou alors on dit n'importe quoi, on dit beaucoup de bêtises, et énormément de bêtises ont été dites hein, sur l'affaire Dupont de Ligonnès. Ce qu'il faut mesurer, c'est les millions d'années-lumière qui séparent l'horreur, l'abomination de ce massacre et ce qu'il y avait dans la tête de Xavier Dupont de Ligonnès au moment où il a commis ses crimes. Et à ce moment-là, il y avait très probablement la représentation d'un acte sublime de sacrifice de ce qu'il avait de plus cher. Alors, par exemple, il dit sur les sites, Dieu ne commande pas le sacrifice, mais il les agrée. Bon, alors, c'est une théologie à sa sauce, mais qui vient en quelque sorte légitimer ce qui pour nous est une horreur.
Le fait qu'on ait retrouvé sur les corps des chapelets, des insignes religieux, prouve votre thèse ?
Je ne sais pas si ça prouve ma thèse, mais à l'évidence, il y avait une dimension religieuse. Je mets beaucoup de guillemets, je veux choquer personne, mais dans sa tête à lui.
Daniel Zaguri, comment, si vous devez justement l'expertiser, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui il serait accessible à une sanction pénale ?
Très probablement, parce que, alors, on retrouve un certain nombre de singularités, mais on est dans une dépression qui est une dépression lourde, mais en même temps qui est une dépression extrêmement singulière, dans la capacité tout à fait particulière de Xavier Dupont de Ligonnès à masquer la profondeur du désespoir. C'est quelqu'un qui est guiré, qui se promène avec sa femme, la main dans la main, ils sont beaux tous les deux, ils sont souriants, et en fait, leur couple est un désastre. Et tout est comme ça chez lui. Il a une capacité hors norme à masquer et à être à la fois l'homme désespéré et l'homme pour qui tout va très bien, Madame la Marquise.
Je reviens à cette dimension apocalyptique que sa mère représente. Sa mère qui est toujours en vie au demeurant, Daniel Zaguri.
Oui.
Vous l'avez rencontré ? Vous l'avez croisé plus que rencontré ?
Voilà, je l'ai croisé, mais je ne veux pas donner d'éléments. Il y a trop de souffrance dans cette histoire. Bon, elle est vivante.
Simplement pour comprendre, parce que la foi à laquelle elle se rattachait, cette dimension apocalyptique, est-ce qu'on sait comment elle en est venue à adopter ce genre de considération sur l'au-delà et sur la religion ? Est-ce qu'elle s'en est déjà ouverte de cette dimension-là ?
Non. Moi, je vois les choses avec la lanterne de Xavier, qui a ses amis, à ses copains, parce qu'il était par ailleurs un adolescent comme les autres. Hein, bon, c'est-à-dire, oui, maman est un petit peu particulière, mais il minimise, je dirais, l'extrême singularité d'être le fils d'une mère prédicatrice qui prévoit l'Apocalypse.
Ce qui est quand même pas banal, c'est-à-dire comme
pas vraiment
comme
non.
Situation, c'est-à-dire c'est quand même singulier. On ne peut pas la faire entrer dans un stéréotype particulier. C'est ça que je voulais dire. C'est difficile.
En tout cas, je m'en garde.
Qu'est-ce que ça te dit, en fait, Daniel Zaguri, puisque vous avez examiné quantité de tueurs en série, de criminels. Est-ce qu'aujourd'hui, les outils dont dispose la psychiatrie vous semblent aujourd'hui pertinents dans l'analyse du phénomène religieux ? Et est-ce que ça entre en ligne de compte, pas seulement là, si on sort du cadre de Xavier Dupont de Ligonnès, est-ce que ça peut expliquer un certain nombre de passages à l'acte ?
Les délires mystiques sont connus depuis longtemps.
Et l'Église les connaît bien. Hein.
L'une des singularités, alors là je me dégage de la religion catholique, je parle de toutes les religions. L'une des singularités, c'est que quand c'est Dieu qui commande, ou quand on a Dieu à ses côtés, l'acte est plus facile. Et d'ailleurs, revenons à Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès, il a Dieu à ses côtés, il a supprimé donc la culpabilité, il a supprimé la honte, il s'est entraîné psychiquement à son acte. C'est ce que j'appelle le travail psychique du crime. Et donc, au fond, à partir du moment où il a arrêté sa décision, il la met en acte et son bras ne tremble pas. Hein. Je crois qu'il y a deux pièges à éviter. Le premier piège, c'est d'en faire des délirants, de façon un peu systématique. Le deuxième piège, c'est d'extraire par principe toute dimension psychiatrique. Voilà. Donc, on est entre ces deux limites.
Mais parce que là, la question, l'argumentaire religieux ou la dimension apocalyptique, il l'a retourné contre les siens. Donc ce n'est pas, par exemple, si on doit comparer avec un attentat commis au nom d'une religion contre la collectivité, c'est quand même un peu différent.
Oui, c'est différent, mais il faut bien comprendre que dans ces suicides accompagnés, la représentation sous-jacente, c'est de rester unis, c'est de ne pas abandonner. Pour lui, le summum de l'abandon, ça aurait été de se suicider tout seul. C'était pas possible. Parce que partir ensemble pour l'éternité, c'est ne pas se séparer. C'est ça l'idée sous-jacente. Alors, vous savez, les psychiatres s'intéressent parfois aux détails. Et donc, ça, il ne le dit pas explicitement. Enfin, il l'exprime peu de temps avant, quand un ami de la famille se suicide en laissant sa femme et 5 enfants. Mais quand il parle des chiens, dont on peut penser qu'il les a tués, il dit on a trouvé quelqu'un qui peut s'en occuper tous les deux, comme ça ils ne seront pas séparés. Vous voyez, autant on se montre prudent pour ce qui concerne les humains, autant pour les animaux, on se lâche. Et donc, cette notion, cette idée de rester ensemble pour l'éternité, c'est probablement une des idées centrales qui sous-tend ce passage à l'acte criminel.
La question que tout le monde doit vous poser, Daniel Zeghiri, ça doit, j'imagine, vous agacer. Est-ce que vous pensez qu'il est en vie ?
Alors, effectivement, non, ce qui m'agace, c'est pas qu'on me pose la question. Ce qui m'agace, c'est quand c'est la seule question. Et effectivement, et je crois que c'est pour ça qu'il est devenu une légende française. C'est-à-dire que, parce que on a quand même, c'est quand même terrible. Cette histoire est absolument abominable, mais en même temps, elle va jusqu'au comique troupier, puisque vous avez vu qu'il y a un film qui va sortir avec Gérard Jugnot. Mais le comique troupier, il concerne nous, il concerne notre réaction à nous.
Merci beaucoup, Daniel Zeghiri, d'avoir été notre invité ce matin autour de l'énigme publique numéro 1, Xavier Dupont de Ligonnès, publié au Seuil.